Bonsoir. Dans un communiqué publié la semaine dernière, le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA a indiqué qu'au moins 140 personnes sont mortes dans les violences enregistrées dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental depuis le mois d'août 2016. Cela suite aux affrontements entre la milice du chef Kamuina Nsapu et les forces de l'ordre. Ce communiqué renseigne aussi qu'à la mi-décembre 2016, une mission conjointe dirigée par OCHA a déterminé que 150 000 personnes sont affectées par ces violences. Mais à ce jour, seulement 15 000 ont reçu une aide directe en espèces. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Yvon Edoumou. Bonsoir.
Bonsoir Alain, comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Vous êtes chargé de communication à OCHA. Hippolyte Mutombo-Mbouéboué, bonsoir Monsieur le Ministre.
Salut.
Vous êtes ministre près le gouverneur de la province du Kasaï oriental, aussi ministre de budget, plan, santé, action humanitaire, lutte contre la corruption, information et presse, et porte-parole du gouvernement provincial. Edel Martin Kabouta-Kapoua, bonsoir.
Bonsoir Alain Yunga.
Vous êtes coordonnateur national du réseau Jeunes dans le monde pour la paix et aussi président provincial de la société civile du Congo, Kasaï central et Kasaï. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Des dizaines de milliers de civils innocents sont affectés par une spirale de violence depuis août 2016 dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. C'est ce qu'indique le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans un communiqué de presse publié vendredi dernier. D'après OCHA, ces violences nées des tensions entre les autorités congolaises et la milice du chef Kamuina Nsapu dans le territoire de Dibaya au Kasaï central ont entraîné la mort de plus de 100 personnes parmi les civils, les hommes de la milice et les forces de sécurité. La même source ajoute que des actes et des violences continuent à se commettre dans le même territoire. Des détails avec vous, Askin Zigbia Tayoro.
Ces communiqués mentionnent que ces violences ont été commises sur 4 mois successifs, c'est-à-dire du mois d'août au décembre 2016. À la mi-décembre de la même année, une mission conjointe dirigée par OCHA a déterminé que quelque 150 000 personnes sont affectées par la violence. Cette mission, composée des représentants de l'UNICEF, des autorités congolaises et d'ONG dont Action contre la faim et Agence Adventiste d'Aide et de Développement International, a déploré des dégâts sur les bâtiments et édifices publics et des dizaines de mineurs auraient été enrôlés dans les rangs de la milice. D'après OCHA, plusieurs incidents ont touché Tchikapa, occasionnant des milliers de déplacés où sont attendues des aides humanitaires. Selon le coordonnateur humanitaire, les besoins humanitaires augmentent de façon si dramatique dans les 3 provinces du Kasaï. Pour Mamadou Diallo, la communauté humanitaire est pleinement engagée à réagir. Il appelle les donateurs à s'y impliquer. OCHA indique que ces violences sont pour l'heure hors radar et invite les autorités congolaises à s'attaquer aux racines de cette crise.
Des mesures adéquates sont prises pour combattre les fléaux qui gangrènent certains coins de la République, notamment la situation de l'insécurité causée par la milice du chef Kamuina Nsapu dans le Kasaï. Ainsi s'est exprimé hier mercredi le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Shadary Ramazani. C'était lors de la présentation officielle du nouveau patron de la sécurité intérieure à la police nationale congolaise au sein de l'enceinte du commissariat général de la police. D'après Emmanuel Shadary Ramazani, la police devrait poursuivre sans désemparer sa mission de protéger la population et ses biens. On l'écoute au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous n'accepterons jamais que les barbares ciblent les policiers. Ce qui s'est passé ou ce qui se passe même les derniers jours ici dans le Kasaï, ce n'est plus des revendications, mais ça va vers les terroristes qui sont des Congolais, commencent à s'attaquer à tout ce qu'il y a comme service de l'État, en ciblant en priorité la police, détruire les commissariats. Détruire les sous-commissariats, ainsi de suite, même les écoles. Nous pensons que cela doit être combattu jusqu'au dernier souffle de nous tous. Nous avons tenu 2 réunions de la communauté sécuritaire de la République. Nous avons déjà pris des mesures adéquates pour combattre tous ces fléaux qu'on observe à travers certains coins de la République.
Yvon Edoumou, vous êtes chargé de communication à OCHA. Qu'est-ce qui a poussé OCHA à tirer cette sonnette d'alarme?
Merci Alain. C'est comme nous l'avons indiqué dans le communiqué, cela faisait quand même plusieurs semaines que le Kassai vivait des violences. Je crois que comme beaucoup d'entre nous, on a peut-être pensé que voilà le premier incident, ça allait juste s'arrêter là et puis bon, on allait rentrer, voilà, ça allait s'arrêter là. Mais on a constaté qu'il y a eu des épisodes récurrents durant ces derniers mois. Nous avons même fait état dans nos communiqués du fait que il y avait un épisode de violence qui n'était pas forcément lié directement à la tension qu'il y avait à Dibaya, mais il s'avérait que les miliciens s'étaient déplacés pour aller porter renfort ou combat dans la province voisine. Donc ça devient un gros fourre-tout où on s'est déplacé le problème n'est plus le manque de reconnaissance que ce chef traditionnel semblait revendiquer, mais ça devenait maintenant effectivement une certain type de violence qui dépassait le cadre revendiqué. Évidemment, pour nous, c'est important de ne pas laisser cette situation sans en parler. Les autorités, avec certains partenaires humanitaires, nous avons fait cette mission en décembre afin d'effectivement tirer la sonnette d'alarme. C'est une situation qui risque de dégénérer si on ne prend pas action maintenant.
Alors, vous êtes descendu sur terrain. Qu'avez-vous constaté?
Alors, le constat est que, comme d'habitude, c'est toujours les civils, et notamment, on peut dire, des civils innocents, des gens qui n'ont rien à voir avec qui ne sont pas des non-combattants, disons, qui payent toujours les pots cassés de ce type de violence. Donc, on parle effectivement de décès. On parle de personnes qui ont dû fuir leur maison pour se prémunir des violences. Cela veut dire que voilà, hommes, femmes, enfants, famille, on se lève et puis on part, on va chercher sécurité ailleurs. Ça veut dire aussi que les enfants, en cette période de rentrée scolaire, il y en a sûrement des milliers qui ne sont plus dans les bancs de l'école où ils doivent être. On parle de ces familles qui, depuis des années, que ce soit des familles agricoles, commerçants, qui vivaient bien de leur commerce, qui ont perdu aujourd'hui leurs moyens de subsistance. Donc il faut redonner à ces gens des moyens de pouvoir se reconstruire. Donc voilà, c'est une situation qui est inquiétante. La mission, comme on dit dans le communiqué, ça faisait longtemps que le Kassai n'avait pas connu un tel type de violence, depuis je crois les années 60. Et il ne faudrait pas aujourd'hui que un nouveau foyer humanitaire se crée. On a déjà assez de problèmes avec l'Est du Congo, les Kivu. Il ne faudrait pas encore qu'il y ait un effet de domino qui fait qu'aujourd'hui, et les humanitaires et les partenaires doivent encore intervenir sur un nouveau terrain d'action.
Alors, dans votre communiqué, dans le communiqué de OCHA, il est précisé que plus de 150 000 personnes sont affectées par ces violences et qu'il y en a qu'au moins 15 000 qui ont reçu une aide directe en espèces, grâce notamment aux activités appuyées par UNICEF. Est-ce que les réponses en cours apportées sur terrain correspondent réellement aux besoins?
Mais je pense qu'on peut honnêtement dire que, et c'est évidemment comme on le dit dans le communiqué, nous sommes en deçà de
largement
en deçà. Là, on parle de 150 000 personnes qui sont affectées par la crise, et seulement à peu près 15 000 qui ont reçu à travers UNICEF des moyens de se remettre un peu en selle, si on peut le dire comme ça.
Et ces moyens consistent en quoi?
Mais c'est essentiellement UNICEF, comme on le dit, qui est en fait, il y a un programme de, c'est un peu technique, c'est un programme de d'appui financier à certains ménages, pour leur permettre d'acheter des petits besoins dans la mesure du possible,
que ce soit. Est-ce qu'il est possible d'évaluer ce montant, 10, 15, 20 dollars par exemple?
Si
ce n'est pas un secret, évidemment.
Non, c'est pas un secret, c'est seulement que je n'ai pas le montant là, je n'ai pas le montant. Mais c'est un montant de toute façon qui est, c'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est bien calculé selon les besoins, c'est des opérations qu'on a déjà menées dans d'autres provinces, donc voilà, on a quelque peu calqué selon la taille des ménages. et des besoins prioritaires de ces ménages-là qui sont déplacés.
Alors, le communiqué fait également état du fait qu'il y a des dizaines de mineurs qui auraient été enrôlés dans les rangs de la milice.
Oui, effectivement, c'est toujours une problématique d'avoir des enfants enrôlés, ce n'est pas leur place. Quand on a 10, 12, 14, 16 ans, on doit être à l'école, au collège, au lycée, mais en tout cas pas en train de manier des armes pour quelque raison que ce soit. Donc ça, c'est toujours une source d'inquiétude. Et voilà, les agences comme UNICEF qui sont mieux outillées à extirper, voilà, font le travail de pouvoir localiser ces enfants. Effectivement, de les faire sortir de cette bande armée.
Merci Yvon et Doumou. Hippolyte Moutombo-Mbouéboué, vous êtes ministre près le gouverneur de la province du Kassai Oriental. Vous coordonnez également plusieurs ministères. Je vous prie de nous épargner la suite. Voilà. Alors, monsieur le ministre, comment vous avez reçu le communiqué de Ocha?
Oui, le communiqué, il vient bien à propos parce que déjà, avant même que Ocha ne puisse publier ce communiqué, Nous avons pris d'abord l'initiative en tant que gouvernement d'aller sur le terrain, faire un état de lieu. Il y a le gouverneur de province, Alphonse Ngoye Kassanga, en ce qui nous concerne en Kassai Oriental, qui s'était déplacé et qui est allé à la rencontre de toutes ces populations sinistrées et qui a communiqué avec tout le monde sur le terrain. Il est allé jusqu'à Kenankuna. Et puis nous avons aussi mobilisé les agences. Nous avons tenu des réunions interagences en Bujimaï, et donc ce qui est fait s'inscrit dans la suite des efforts que nous avions déjà déployés sur le terrain, et Ocha n'a fait que parachever la démarche que nous avions déjà amorcée.
Alors, vous avez amorcé une démarche, mais il y a des moyens qui sont sous-évalués. Concrètement, qu'est-ce que vous faites?
En fait, la première mission qui avait été effectuée au mois d'octobre, nous avions évalué avec les agences, toutes les agences des Nations Unies qui s'étaient déplacées à l'occasion. Il y avait l'UNICEF, il y avait Caritas, et on a eu une première évaluation qui était issue de l'enquête qui a été menée par le groupe que nous avions envoyé autrefois, y compris les chefs de division et puis les membres du ministère. C'était une équipe, une commission d'enquête inter-agence et puis gouvernementale. Les besoins étaient évalués, mais il faut dire que les événements évoluent sur le terrain. Même aujourd'hui, quand je vous parle, ce qu'il y a de nouveaux accrochages qui se créent et qui accroissent les besoins. Nous avions évalué les besoins à l'époque, en fait, pour ce qui concerne le Kassai Oriental, ça c'était autour de 300 000 à l'époque. Mais il s'est fait que le phénomène s'est transporté, comme d'ailleurs Ocha l'a dit tout à l'heure, est parti du Kassai central, et finalement, c'était des attaques de tout ce qui était symbole de l'État à Kabeya-Kamanga. On s'est attaqué au bureau de territoire, au bureau de CENI, au bureau de la police, et finalement, la population s'est déplacée, a fui la violence qui était sur la cité, ce qui fait que les besoins ont accru.
Vont croissant.
Oui, vont croissant. Avec de nouveaux accrochages, de nouveaux cas qui sont signalés sur le terrain.
Alors, comment vous expliquez finalement le fait que ces violences vont croissant? Il y a des mesures, il y a des stratégies qui ont été évoquées, mais on a l'impression que ça dépasse un peu les autorités finalement.
Bon, en fait, c'est d'abord l'approche. Il faut même dire que je peux dire que c'est une insurrection. C'est vraiment le cas de le dire. C'est une insurrection qui est partie, d'ailleurs, comme lui-même, comme un ensapo, on peut l'écouter sur certains éléments de vidéo ou de sonore. Il a dit que c'est un mouvement politico-coutumier. En fait, la revendication coutumière n'a servi que de déclic. Il a dit qu'on ne l'avait pas reconnu parce qu'on ne lui a pas délivré tout ce qu'il y avait comme autorisation de reconnaissance par l'État. Et partant, en fait, ça a été un déclic. Il a enclenché un mouvement. En faisant recours à une pratique qu'on dit les bizaba au Kassai, en fait c'est comme des initiations à des pratiques fétichistes et qui font cette pratique fait croire aux jeunes que ils sont invulnérables, quand on tire des balles ils peuvent pas mourir. Alors il a fait penser à certains jeunes, vous connaissez la jeunesse et ils profitent un peu de cette naïveté, et puis ensuite les drogues, c'est la conscience qui est perdue. il leur fait croire qu'ils peuvent, avec des bâtons ou avec des armes artisanales, gagner l'armée nationale. Et ils y croient parce qu'en fait, ils sont drogués. Et ils y vont, ils attaquent la police, ils attaquent l'armée, et ils attaquent les autorités politico-administratives. Ils tendent à déstabiliser en fait l'ordre institutionnel légal établi. Alors, ce qui fait qu'en fait, à un certain moment, le mouvement a été, comme je l'ai dit, repris par les politiques, qui finalement est passé de groupement en groupement pour prêcher les jeunes à accepter le mouvement. On a transporté les féticheurs pour aller initier dans les différents groupements, ce qui fait qu'en fait, il y a eu des groupes qui, à tout moment, ont surgi de manière inattendue et de manière éparse. À travers non seulement les Kassai centrales, où ça a été les bastions au départ, mais également sur les autres peuples voisins, comme les Kassai orientales et les Kassai tout court.
Vous parliez de l'approche, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez que l'approche utilisée par le gouvernement tant central que les différents gouvernements de la région, que l'approche était la meilleure?
L'approche, je dois vous dire qu'on a privilégié l'approche pacifique, où on n'a pas voulu l'effusion de sang. On a commencé d'abord par négocier avec le groupe, tout en étant l'État, bien sûr, l'État ne perd jamais son autorité. On a voulu faire revenir à la raison les Kamuina Nsapu, mais il n'a pas voulu revenir à la raison. Et c'est ce qui explique, comme d'ailleurs je venais de le dire, si c'était une revendication coutumière, ça devait être localisé dans son groupement, mais aujourd'hui ça prend la dimension. Ce qui fait qu'en fait l'approche aujourd'hui que nous prenons, c'est on ne veut pas l'effusion de sang, on appelle les populations à revenir, on appelle la jeunesse à comprendre que c'est sans but, sans objectif, qu'elle s'engage dans un mouvement qui l'amène à la mort, qui c'est vraiment se livrer à la mort. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelques mesures qui sont prises sur le terrain et qui sont en train d'être appliquées. C'est les retours des chefs coutumiers, d'abord, qui doivent revenir dans leurs entités. Les retours de territoriaux, des autorités politico-administratives qui doivent revenir et qu'on doit renforcer avec la sécurité pour qu'enfin, ils aient l'impérium et le pouvoir qu'il faut sur le terrain.
Monsieur le ministre, souffrez que je voudrais être à ce niveau. On revient sur ça avec force détail dans le prochain tour de table.
Voilà.
Edel Martin Kabutaka, vous êtes coordonnateur national du réseau Jeunes dans le Monde pour la paix, aussi président provincial de la société civile du Congo, Kassai Central et Kassai. Vous avez suivi le ministre Hippolyte Mutombo Bomboué, ainsi que Yvon Edomo de Ocha. Comment vous avez perçu cette sonnette d'alarme tirée par Ocha?
Oui, je veux commencer par remercier Ocha, remercier aussi Radio Okapi, parce que en ce moment, je vais attirer l'attention de tout le monde sur ce qui se passe dans le Grand Kassai. Parce qu'avec la situation politique aujourd'hui, c'est comme si tout marchait bien au Kassai et on a semblé peut-être oublier les citoyens qui vivent ou qui passent des moments très difficiles de leur vie au moment. Voilà pourquoi cette sonnette d'alarme, nous l'avons appréciée à juste valeur. Et en écoutant Son Excellence, Monsieur le Ministre, ainsi que Monsieur Yvon de Ocha, je pense que d'abord, on ne va pas faire la guerre au niveau des chiffres, parce que moi, comme société civile, je dirais que ce chiffre est en deçà. Le chiffre de 150, ou qu'on dise qu'il y a eu autant pour les trois provinces, je vous dis que c'est vraiment moins par rapport aux réalités ou aux problèmes sur le terrain. Nous, société civile, nous avons déjà, je vais vous dire qu'avant-hier, il y a eu encore dans les territoires de Dimbeling à peu près 21 miliciens ou jeunes accusés de miliciens qui ont été tués. Et du jour au jour, je pense dans une semaine, dans le territoire de Dibaya, et plus précisément dans la mission catholique Bunkonde, il y a eu encore de morts de jeunes de l'autre côté. Et j'ai admiré, lorsque vous avez posé la question à M. Yvon, pour les 15 000 personnes qui ont reçu de l'aide directe, cette question, je pense, était à sa place, parce que moi, personnellement, j'aimerais savoir c'est dans quelle partie de ces provinces où on a essayé un peu d'apporter déjà cette aide, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en contact permanent avec la population qui crie du jour au jour de la situation très préoccupante qu'elle est en train de passer. Et c'est où? Et c'est quoi? Qu'est-ce
et
qu'on
donc,
a
selon, vos, selon vos sources, il n'y a rien eu de tout ça?
Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais je ne suis informé de rien. D'une aide apportée par un organisme. Parce que du jour au jour, nous avons des SMS, nous avons des coups de téléphone, on nous informe de ce qui se passe. La population, il y a dans les territoires, s'il faut dire, le Kasaï central a été touché, et ce n'est pas tous les Kasaï pour le moment qui ou la situation. La situation est partie de Dibaya, qui est le territoire d'origine du chef Kamouna Sapou. Elle s'est transportée dans le territoire de Dimbelengue, parce que je dirais que le Kasaï central, qui a 5 territoires, il y a 2 territoires qui sont en train de vivre la situation de ces affrontements entre les miliciens ainsi que les forces de l'ordre loyalistes. Et les autres comme Demba, je pense que la situation n'est pas très préoccupante, où on a signalé par-ci, par-là, et même Kazumba et Luisa. Mais c'est le fief là où la situation est très préoccupante, c'est à Dimbelengue et à Dibaya. Donc, jusque-là, dans les communications que nous recevons jusque ce matin, je n'ai pas eu vent d'une aide apportée par un organisme quelconque, parce que là où on devait apporter comme à Bunkonde, les gens sont dans la forêt, à Dimbelengue même, et les gens continuent à crier, même les écoles, il n'y a pas d'école depuis le mois d'octobre. Donc, il faut vous dire que, bon, s'il y a eu l'aide, c'est quand, ça, en quoi a consisté cette aide, et quand est-ce qu'on a apporté cette aide, et dans quelle entité cette aide a été apportée à la population.
Alors, Yvon va répondre, quand je lui donnerai la parole, à votre préoccupation. Mm. Ça, c'est du côté des humanitaires, mais qu'en est-il du côté des autorités provinciales? Y a-t-il eu une aide? Y a-t-il eu un contact avec ces populations sinistrées?
Pour le moment, ce qu'on sait, c'est comme l'a dit le ministre de la province du Kasaï oriental. Je sais que le gouvernement, sa préoccupation, c'est comment rétablir l'autorité de l'État. Et je n'ai vu aucun moment le gouvernement réfléchir sur l'aide à apporter aux sinistrés. Donc, jusque-là, je ne sais, je ne suis informé de rien, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu aide, mais s'il y a eu aide, je voudrais peut-être qu'on nous dise à tel endroit, parce que nous sommes des humains, on est aussi limité, peut-être qu'on n'a pas l'information. Mais je doute qu'une aide ait été apportée, ou soit apportée aux sinistrés, parce que là où la situation est très catastrophique, les populations vivent dans des forêts, depuis le mois d'octobre jusqu'à ce jour. Pas d'école, pas d'activité commerciale, pas de circulation, et d'ailleurs les actions ou les actes des miliciens se sont transformés. On dirait maintenant que c'est entre la population elle-même, des jeunes gens de tel endroit, là où il y a des conflits de pouvoir coutumier, les gens vont dans des forêts
des
pour
règlements
attaquer
des comptes.
Des règlements de comptes. Et il y a des morts, et il y a des gens qui comptent. Et quand, maintenant, les militaires qu'on a amenés, par exemple, dans le secteur de Machala, dans le territoire de Dimbelengue, nous sommes informés, ils sont allés jusque même à entrer dans des forêts, c'est une façon pour les rétablir ou chercher les miliciens. Et on a tiré, il y a eu des morts, et nous vous disons que la situation sur le terrain, jusqu'à ces jours, n'est pas rétabli et la population crie pour que la paix soit rétablie au niveau de ces entités afin qu'elles puissent préoccuper, disons, varier merci à ces occupations.
Merci. Yvon Edoumou, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Je vous appelle depuis la province de la Tchopo à Kisangani. N'est-ce pas un rapport contradictoire avec celle des autorités provinciales et nationales déclarant haut et fort que le dossier est sous contrôle des forces de sécurité du pays depuis décembre 2016? Ces chiffres ont été donnés sur quelle base et quel moment? Voulez-vous nous dire que la situation est minimisée par le gouvernement ou c'est plutôt la complicité de certains fils du coin qui fait que la situation perdure? Maintenant, à qui pouvons-nous croire?
Voilà, Yvon Edoumou, la question des chiffres revient dans la préoccupation de Pepe Lisungi que vous venez de suivre.
Alors, je pense que sur la question des chiffres, c'est comme le confrère disait, on va pas rentrer dans une guerre des chiffres parce que là, c'est une situation qui perdure depuis plusieurs mois. On a des exemples encore qu'au fur et à mesure, presque de façon quotidienne, on a des nouveaux affrontements. Non, il n'y a pas de contradiction entre ce que nous disons et ce que le ministre a dit ici. Il n'y a aucune ambition de minimiser ou de. Par contre, comme je disais en début d'intervention, on n'a peut-être pas pris, lorsque les premiers événements ont eu lieu, on n'a peut-être pas pris la mesure de la crise. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on essaie de tirer la sonnette d'alarme parce que bon, quand même, 5 mois, 6 mois de violence, ça ne peut pas être négligé. Il faut finalement y faire quelque chose.
Alors, dans le communiqué, il est dit, je vais juste lire une phrase pour évoquer l'élément que je voudrais faire ressortir, notamment pour évaluer la situation ainsi que les réponses en cours et attirer l'attention sur cette crise qui, pour l'heure, est hors des radars.
Oui, c'est comme je disais.
C'est une crise oubliée.
Oui, on peut le dire comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence que pour nous, acteurs humanitaires, depuis de nombreuses années, les regards ont souvent, très régulièrement, ont été portés sur l'Est, sur les Kivu, pour des raisons évidente, mais aujourd'hui, il y a d'autres foyers de tension qui se créent. Certes, Beni semble cristalliser les choses, mais aujourd'hui, on a des foyers dans le Tanganyika, entre les communautés Luba et Toa. Quand on remonte un peu plus dans l'Ituri, avec l'arrivée des réfugiés sud-soudanais, donc aujourd'hui, voilà, il y a des crises aujourd'hui dont qui ont besoin d'être mises en lumière pour ne pas qu'elles paraissent effectivement quelque part oubliées. Comme sinon, faut pas donner ce sentiment à ces Congolais qui vivent une situation dramatique de croire que non, tout le monde regarde vers le Kivu et nous ici dans le Kasaï, ben on est laissé pour compte.
Alors le communiqué dit également que la communauté humanitaire est pleinement engagée à réagir et vous appelez les donateurs à soutenir la réponse. Au moment où nous parlons, le ministre l'a dit, les violences continuent. Et quelle est cette réponse que la communauté humanitaire peut donner à cette situation?
Ben, la réponse que nous demandons à nos donateurs, à nos bailleurs, à nos donateurs, en fait, c'est que effectivement, c'est de nous soutenir financièrement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a ce décalage entre les personnes qui sont affectées et le peu d'aide qu'elles ont reçu aujourd'hui, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas les moyens. Les moyens humains, nous les avons, mais les moyens financiers d'apporter le matériel nécessaire en termes de nourriture, en termes de médicaments, en termes de tout ce qui est nécessaire pour que ces familles puissent commencer à se reconstituer, nous ne l'avons pas en ce moment. Donc c'est un appel à nos donateurs qui nous ont toujours tenus de creuser un peu plus dans leur poche. Voir si elles peuvent pas gratter encore quelques centaines de mille pour nous pour qu'on puisse répondre à ses besoins.
Edel Martin faisait observer tout à l'heure qu'il voulait avoir un peu plus de précisions sur l'endroit où cette aide a été notamment adressée.
Alors, il est évident qu'effectivement, dans toute réponse humanitaire, et là, de raison encore plus dans le communiqué, comme on le dit, les personnes qui sont en mesure d'être assistées sont des personnes qui sont, c'est-à-dire, relativement facile à atteindre. Effectivement, nous savons que de nombreuses personnes, quand elles se déplacent, elles ne s'arrêtent pas en ville, elles vont dans la forêt, elles vont où elles peuvent trouver un certain sécurité. Donc aujourd'hui, ces personnes qui ont pu recevoir une assistante, même aussi minime qu'elle soit de l'UNICEF, sont dans des zones
disséminées
et j'allais dire relativement urbaines et accessibles.
Monsieur le ministre Hippolyte Mutombo, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, cette situation traduit la faiblesse de l'État qui ne joue pas pleinement son rôle, qui consiste à imposer son autorité et assurer la protection de la population. Voilà pourquoi il y a des groupes armés et milices presque partout en RDC et tous les gouvernements qui se succèdent depuis 2001 jusqu'à ce jour, aucun d'eux n'a apporté une solution durable au problème des groupes armés et milices qui écument plusieurs villes et territoires de notre pays. Et cela prouve que ce gouvernement, leurs priorités sont ailleurs, que le sens du sacré de la vie humaine n'existe plus dans ce pays. Je crois que le gouvernement qui a failli à sa mission est responsable de la situation humanitaire précaire dans ce pays.
Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez à Patrick Mboli?
D'abord lui dire que je crois qu'il n'a pas les données réelles de terrain parce que les choses ne sont pas comme elles avaient commencé.
C'est-à-dire
quand on regarde l'évolution des événements, je prends les cas du Kassai Oriental que je connais le mieux. Ça a commencé par le territoire de Kabeya-Kamanga, dans lequel il y a de plus en plus du calme aujourd'hui. Je peux vous dire que le travail que nous faisons, c'est pour conforter les calmes qui prévaut déjà sur le terrain et obtenir le retour de nombreuses masses de population qui, bien sûr, étaient parties dans la forêt, qui reviennent déjà parce que la vie revient sur la cité. Je vous informe qu'il est prévu d'ailleurs ce dimanche une messe avec notre évêque, qui sera sur place à Kabeya-Kamanga, qui va dire une messe.
Pour consolider la paix.
Pour consolider la paix. C'est-à-dire que nous sommes à une étape de consolidation de ce qui est fait comme travail. Et je voudrais très rapidement, les chiffres, je crois qu'il y a eu une petite discussion, un débat sur ça, mais les chiffres, c'est interagence. Et c'est fait également avec le gouvernement. Donc ce qui fait que les chiffres, il y a personne qui a intérêt à les diminuer ou à les augmenter. Je peux dire que les chiffres qui sont donnés sont fiables. Et ils sont évolutifs sur le terrain parce que comme il y a des pôles d'effervescence qui naissent au jour le jour, évidemment ça ajoute de nouveaux cas de victimes. Par rapport à l'aide, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, les organismes humanitaires sont beaucoup plus focalisés à l'Est. Les centres, généralement, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Ça répond déjà même à la question de notre auditeur qui appelait tout à l'heure. Au centre, on a fait beaucoup d'efforts pour maintenir la paix. Il faut féliciter quand c'est bien fait, il faut féliciter. Aujourd'hui, il y a un cas d'insurrection. On voit que le gouvernement s'investit, les gouvernements provinciaux également. Mais l'aide, c'est pas assez. Parce que quand on voit les nombres, 150 000, par rapport à ceux qui bénéficient déjà de l'aide, on a besoin de l'aide. Il y a même sur place, en Mbujimayi, il y a une mobilisation de la population elle-même qui est d'accord de contribuer, de mettre ses moyens aux côtés des moyens de l'État, et d'aller sur le terrain. Le dimanche, je vous ai dit qu'il y a une expédition, pratiquement toute la population sur Kenankuna, qui est le chef-lieu de Kabeya-Kamanga, pour amorcer ce processus de consolidation. J'allais dire continuer ce processus de consolidation. Et en termes d'aide, il faut davantage de l'aide, et on appelle à l'aide. Et in situ, il y a véritablement une amélioration de situ. Où est-ce qu'on a donné cette aide? Je voudrais répondre. Actuellement, je vous informe qu'il y a une semaine, moi-même, j'étais sur le terrain avec l'UNICEF. On a commencé une campagne de soins gratuits. Il y a 3 mois de soins gratuits. C'est donné par l'UNICEF. Et 3 autres mois, ça sera avec réduction, donc presque au quart ou au tiers du vrai coût de soins. Et ça, c'est dans les 7 aires de santé du territoire de Kabeya-Kamanga. Je crois que notre ami de société civile peut aller vérifier ça. Et puis, il y a les itinérances du gouverneur qui montrent les soucis des autorités de pouvoir émettre l'ordre dans ces entités. Il y a Save the Children aussi, qui, au premier retour des enfants dans les écoles, a distribué des cahiers dans plus ou moins 6 écoles à Kabeya-Kamanga. Je crois qu'il peut aller vérifier.
Et le gouvernement provincial a donné quoi?
Nous avons été le premier à commencer. Aussitôt que ça a commencé, il y a notre ministre de l'Intérieur qui est allé avec il y a eu des bâches, il y a un appui en termes de nourriture. Et à chaque passage du gouverneur, il y a toujours de l'aide pour surtout à ceux qui viennent assister, qui le rencontrent. Et au moins par 2 fois, il y a eu des assistances en termes de soutien alimentaire.
Monsieur le ministre, est-ce que ça n'a pas été une faiblesse dans ce sens qu'on n'a pas senti une solution concertée entre les 3 provinces du Grand Kassai? On n'a pas vraiment senti ça.
D'abord, parce que l'événement n'était pas synchrone. Ça s'est passé de manière étalée dans le temps et dans l'espace.
Mais à un moment où l'affaire a pris une certaine ampleur, on devait sentir cet engagement des 3 gouvernements provinciaux du Grand Kassai.
Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une coordination du gouvernement central. Je vous informe qu'il y a beaucoup de délégations nationales qui font la coordination des 3 provinces dans le cadre de différentes interventions pour que les solutions soient d'abord des solutions, je dirais, politiques, de concertation, pour qu'il n'y ait pas effusion de sang, et qu'on puisse utiliser la force qu'en cas de la défense...
En dernier ressort.
En dernier ressort pour protéger. Et c'est ce qui se fait sur le terrain. Je vous dis que les actions de trois provinces sont concertées, coordonnées par le gouvernement central. Donc il y a une action concertée. Et c'est évidemment l'avantage de la pyramide de la décentralisation.
Merci, Monsieur le ministre. Delmartin Kabuta-Kapoya, pour vous, cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Je réponds au nom de Robert Kabandani à Bukavu, au Sud-Kivu. Le constat d'Otia est vrai et fondé, mais ce qui est important pour le moment, c'est de savoir pourquoi le grand Kassai, qui n'avait jamais connu la rébellion, est aujourd'hui devenu le bastion de la rébellion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener la ministre Kamuina Sakou et le gouvernement sur une même table afin qu'une solution durable puisse être trouvée, celle de mettre fin à ce conflit qui a trop duré?
En d'autres termes, Delmartin Kabuta-Kapoya, quelle est la meilleure solution pour qu'on ne traite pas les conséquences comme on le fait maintenant?
Oui, je pense que la meilleure solution, c'est comme on l'a toujours dit partout, mieux vaut prévenir que guérir. On dit, gouverner, c'est prévoir. Je suis d'accord, parce que, et là je reviens pour dire, nous félicitons le communiqué d'Otia, dans le sens que, et comme l'a dit même le ministre, le Kassai, même lorsqu'on a connu des catastrophes ferroviaires et tout ça, on sait qu'on ne s'est jamais préoccupé de la situation du Kassai. Si aujourd'hui on se préoccupe de cette situation, c'est très bien. C'est très bien dans le sens que le Kassai a besoin de cette aide. Mais quand je dis mieux vaut prévenir que guérir, je pense encore dans ce micro, dans ce studio, et à travers vos micros ici, que nous avions dit que cette situation était maîtrisable. Déjà depuis 2014, en juin, nous avons fait notre rapport et la situation pouvait être à ce moment-là, on pouvait être déjà résolu, on allait trouver une solution durable. Et nous avons envoyé nos rapports, des copies, même aux agences. Si aujourd'hui je vois qu'il y a des agences, c'est ça la question que j'allais poser. Pourquoi avoir attendu que la situation pourrisse pour qu'aujourd'hui on intervienne? Et d'ailleurs, si aujourd'hui on apporte cette aide, nous en avons besoin, mais les morts, est-ce qu'on va ramener ces morts pour qu'ils vivent de nouveau? Parce que nous comprenons aussi que les agences, à un certain moment, et des Nations Unies, c'est comme si, lorsqu'on crie, lorsqu'on présente la situation, on dirait que bon, on n'a pas d'intérêt. Et l'intérêt naît lorsque la situation s'empire sur le terrain. De même que les gouvernements. Parce que si aujourd'hui, on avait écouté tout ce que nous avions fait comme proposition, je pense qu'on ne serait pas arrivé à là où nous nous trouvons. La situation est devenue, contagion. Or, dans le temps, lorsque nous avons fait un peu ce rapport, vous vous souviendrez qu'au mois d'août, il y avait des démarches. Les démarches étaient des solutions. On dit la guerre n'est pas bonne, ni pour les vaincus, ni pour les vainqueurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se demande qui est vainqueur jusqu'à aujourd'hui. La situation a perduré. Vous vous imaginez, depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, janvier, la situation continue. J'ai échangé avec un directeur d'école primaire qui m'a dit que nous avons connu la situation de 1960 au moment de l'indépendance, mais ce n'était pas comme ça. D'ailleurs, à voir, parce que je me dis les conséquences que l'on a sur la jeunesse, l'avenir de la jeunesse, le comportement de la jeunesse. Nous disons, quel genre de jeunes nous aurons demain? Tuer une personne, c'est facile. Aujourd'hui, c'est devenu facile. Tuer une personne, c'est facile. Même si on sait que vous ne pouvez pas enlever la vie, ôter la vie à une personne à qui vous n'avez pas donné la vie. Mais se permettre de couper, par exemple, la tête, que ce soit d'un militaire ou d'un policier, et commencer à se promener avec, ça montre que vraiment, on a atteint un niveau de violence qu'il fallait éviter.
Alors, puisqu'on est déjà en plein dans la violence, et une violence qui va croissante, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici et maintenant?
Oui, je pense qu'il faudra éviter qu'on reste dans le cycle des violences. Parce que ce que vous venez de dire, même le communiqué du vice-premier ministre, en disant qu'on va appliquer... Donc, on va imposer la paix au lieu de négocier la paix. Nous disons qu'il faut négocier la paix. Négocier la paix, c'est qu'il faut vraiment recourir aux voies pacifiques. Lorsqu'on ne tire pas, je pense qu'il y a lieu d'aller négocier ou de négocier partout.
Donc, vous avez demandé à ce qu'il y ait d'abord concertation entre les trois gouvernements provinciaux. Qu'on implique tout le monde, et les notables, et la société civile, qu'on revoit comment on peut encore renégocier cette paix. Mais si on veut renégocier la paix, il faut que l'on évite à tirer, que l'on évite à mettre des militaires qu'on a envoyés, parce qu'aujourd'hui, je vous dis que même sur le terrain, là où on a envoyé des militaires pour protéger la population, on n'a pas donné, ou on donne à un certain moment, c'est d'une façon spontanée, qu'on donne la ration à ces militaires, comment ils vivent.
Nous avons eu des
cas, oui, sur les dos, nous avons eu des cas où on a commencé à ouvrir même des portes de maison pour se nourrir.
Merci. Yvon Edoumou, dans le communiqué, il est également dit, nous appelons également les autorités congolaises à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'attaquer aux racines de cette crise. Est-ce qu'il arrive, vous arrive à vous, humanitaire, de vous pencher aussi sur les causes des conflits pour ne pas traiter que des conséquences?
Ben, malheureusement, la nature même de l'action humanitaire, c'est cela, c'est un peu comme des sapeurs-pompiers. On vient répondre à des besoins pressants, urgents, des besoins de vie ou de mort, mais il est évident que cela n'est pas une solution. Et c'est pour ça qu'on le dit dans le communiqué, il y a des racines, il y a des raisons profondes. Sûrement au-delà du fait que ce chef coutumier dit qu'il n'a pas été reconnu dans ses droits et autres, il y a peut-être des racines, des motivations plus profondes qui doivent être abordées. Quelque part, cette situation, on n'a pas dit dans le communiqué, mais cette situation du Kassai, c'est un peu aussi quelque part un peu similaire à ce qui se passe dans le Tanganyika entre les communautés Twa et Luba. Aujourd'hui, oui, il y a des morts, il y a des violences, mais qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est à la racine de cela? Parce que si ce sont des revendications ou des problèmes qui datent de plusieurs années, décennies ou générations, ce n'est pas avec l'aide humanitaire que nous allons aborder le fond du problème.
Alors comment, en guise de conclusion, vous entrevoyez la suite de ce conflit en termes humanitaires?
Ben, la suite, je vais me tourner un peu vers le ministre. Je pense que c'est une approche qui doit se faire en deux temps. Pendant que nous, humanitaires, sommes en train de tout faire, mobiliser des fonds et des ressources pour pouvoir sauver des vies et aider les gens, quelque part aussi, il doit y avoir aussi un dialogue sur...
Travailler sur la paix.
Sur la paix, sur le fond, sur les racines du mal, en fait.
Monsieur le ministre, on a reçu beaucoup de questions des auditeurs nous demandant finalement Kamuina Nsapu, le chef, mort ou vif à ce jour?
Ben, je voudrais que ça me permet de parler un peu de modus operandi. Aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes miliciens qui ont commencé dans Dibaya qui bougent d'une province à une autre, mais c'est plutôt, comme je dis, des recrutements locaux. Et je pense que la société civile devrait aider à éduquer les jeunes. Je crois qu'il l'a dit. C'est les jeunes aujourd'hui qui doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas aller s'enrôler dans ce mouvement où c'est bain d'un faux bain de vulnérabilité. Pour quel objectif? Pour quel but? Est-ce, parce que quand on regarde qui est à la base de cela, ce sont les jeunes du groupement qui vont se baigner de ce faux bain-là, qui attaquent la police et l'armée. Et c'est ça le déclencheur. En fait, c'est la population a son propre devenir. C'est à la population de décider aujourd'hui. C'est aux jeunes de comprendre que c'est inutile d'aller s'enrôler dans ce mouvement. Et c'est la première grande solution. C'est l'approche que nous avons en province. Il y a l'autorité provinciale qui a réuni toutes les forces vives de Miabi et de Kabeyakamanga, qui d'ailleurs les a envoyés sur le terrain. On les a même aidés à aller sur le terrain pour éduquer la population. Et c'est là la clé de la réussite dans cela. Et c'est
ainsi mobiliser la population qui doit collaborer avec la police et l'armée. En dehors de ça, monsieur le ministre,
comprendre aussi que on ne peut pas s'engager dans un combat sans finalité. Quelle est la finalité? On est en plein centre. Est-ce qu'on peut instaurer un ordre institutionnel en plein centre du Kassai? Est-ce qu'on peut être à 20, à 30, sans formation, sans logistique, sans moyens financiers et gagner la guerre au centre? Donc ils doivent comprendre que c'est peine perdue. Ça ne sert à rien. Ils ne peuvent pas être utilisés comme des instruments par certaines forces politiques. Et c'est ce qui est important. Nous avons besoin de la société civile pour éduquer, pour que la population comprenne qu'il ne faut pas aller se livrer à la mort, inutilement, sans objectif. Tout ce que nous faisons doit viser un résultat et on doit avoir un sens dans tout ce que nous faisons.
Et il faut privilégier la paix utiliser la force en dernier ressort, comme a dit Delmartin Kabutaka.
C'est d'ailleurs l'approche qui est sur le terrain. Je crois que j'ai été premier à dire ça. On utilise la force que quand... Parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des coups de... On dit de la sommation. On fait la sommation aux miliciens, ils viennent. Si vous constatez chaque fois qu'il y a eu mort par balle, c'est que c'est d'abord les policiers militaires qu'on a tués. Mais pas, parce que quand on a tué un, deux, trois policiers, les policiers ne vont pas continuer à se faire tuer. Ça, c'est juste en riposte. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est une solution ultime. Pour le moment, nous travaillons avec toutes les forces vives sur le terrain, à conscientiser les jeunes à ne pas adhérer à ce mouvement. Et c'est ça, en fait, le déclencheur. C'est les jeunes eux-mêmes qui déclenchent cette
crise. Monsieur le ministre.
Oui, voilà.
Eden Martin Kabutaka, pour conclusion.
Oui, ma conclusion, c'est que je voudrais inviter le gouvernement, inviter les agences des Nations Unies, inviter tout le monde et même la population à se mettre autour d'une table pour le retour de la paix au Kasaï, qui y était connu, j'ai dit, comme oasis de paix, afin que nos populations qui aujourd'hui vivent dans des forêts puissent retourner dans la cité et vaguer librement à leurs occupations. Je pense que c'est ce qui est important pour le moment, qu'on évite d'imposer la paix. Quand on va imposer cette paix, on n'aura que des résultats éphémères.
Merci.
Parce que depuis le mois d'août jusqu'à ce jour, on a imposé mais on n'a pas de résultats.
Merci monsieur, cette émission est terminée. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.